Bonjour. C'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je vois de ça à personne.
Pour ça je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. En plus je sais pas lire.
En compagnie des bibliothécaires du sud de l'Eure. Aujourd'hui dans l'équipe on retrouve Pauline, Priscille
de Breteuil,
Anne-Marie
de Danville, comme une nouvelle de Ménil-sur-Iton,
et bien sûr Amélie
de Breteuil également. Bonjour à tous, et notre collègue de Bourthe,
Sandrine. Aujourd'hui nous allons vous présenter les dévoreurs de livres.
Aujourd'hui, je suis un mousquetaire.
Aujourd'hui, je suis une sorcière.
Aujourd'hui, je viens vous libérer.
Aujourd'hui, je suis un pirate.
Aujourd'hui, je voyage avec les Indiens.
Et oui, comme il le dit si bien, la littérature jeunesse permet à nos chères têtes blondes de rêver, de s'échapper, d'imaginer. Le prix des dévoreurs de livres les accompagne en proposant une vingtaine d'ouvrages pour les jeunes de 9 à 16 ans, disponibles dans vos bibliothèques. Pour tout vous dévoiler de cette opération, nous avons invité Élise Delavigne-Malvers, de la section jeunesse à la médiathèque départementale de l'Eure. Bonjour Élise. Eh bien, avant de passer à table, je vous propose un petit jingle.
Alors, du coup Élise, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce prix des dévoreurs? Ce qu'on aimerait savoir, c'est peut-être depuis quand il y a ce prix, par exemple, qui l'a initié?
Oui, bien sûr. Le prix des dévoreurs de livres, en fait, il existe depuis 1999. Il vise à promouvoir la littérature de jeunesse et à développer le plaisir de lecture donc, chez les jeunes de 9 à 16 ans. C'est un prix qui est il y a beaucoup de partenaires dans ce prix. Donc c'est la médiathèque départementale de l'Eure, l'inspection académique. On a la ville d'Évreux, plusieurs villes du département. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y a une vraie volonté de développer la littérature jeunesse sur le département. On a la librairie L'Oiseau Lire, on a l'association L'Oiseau Délire. Voilà.
C'est ce que je voulais dire.
Et du coup, qui a eu l'idée de lancer ce prix?
C'est, je ne connais pas exactement les précurseurs. Je pense que c'est vraiment
une volonté commune.
Oui, voilà. Je pense aussi avec le comité de lecture qui existe à la médiathèque départementale depuis, je crois, les années 80, en partenariat avec la librairie L'Oiseau Lire. Je pense que c'est né à partir de là.
C'est quoi justement exactement ce comité de lecture?
Alors ce comité de lecture, la librairie nous livre chaque mois toutes les nouveautés qui sont parues dans le mois qui a précédé. Là maintenant, il doit y avoir une trentaine de bibliothécaires qui viennent chaque mois choisir ces livres. Et on laisse le mois passer et on se réunit toutes et tous, il y a quelques bibliothécaires hommes quand même, pour avoir une idée de tout ce qui se fait. Parce que là, en 10 ans, on a eu 70% de plus de livres édités chez les éditeurs jeunesse. Donc la production éditoriale est énorme. Donc pour le choix de romans, d'albums, de documentaires jeunesse, on a vraiment besoin d'avoir un peu les avis de tout le monde et de professionnels. C'est vraiment une formation continue. Et à ce comité, du coup, c'est là qu'on propose quel roman proposer, pour quel niveau, pour les dévoreurs de livres. C'est à cette occasion qu'on le fait.
Et quels sont les critères? Est-ce qu'il y a des critères, du coup, pour proposer des romans?
Oui, alors il faut que l'auteur soit français. Habite en France, c'est mieux.
Pour pouvoir l'inviter après dans les écoles, c'est ça?
C'est ça, exactement. Pour pouvoir l'inviter dans les écoles. Après, si... s'il habitait à l'étranger et qu'il venait par ses propres moyens, ça serait bien. Mais voilà. Et puis, les critères, c'est que dans les sélections, on essaye de proposer du thriller, du roman historique, de l'histoire vécue, du fantastique. On essaye d'avoir un panel de tous les genres pour que justement les jeunes puissent trouver leur bonheur.
Je crois qu'il n'y a pas que des romans d'ailleurs, il y a également des albums.
Oui, il peut y avoir donc plus en CM, il y a des albums. On essaie de mettre un album à chaque sélection, chaque année. Oui.
On peut peut-être laisser Pauline nous proposer un des romans des Dévoreurs pour le niveau justement CM 6e.
Voilà, CM et 6e, c'est le seul roman d'ailleurs qui est proposé sur deux listes différentes. Et il s'agit de Jefferson, de Jean-Claude Mourleva. Alors, un petit résumé déjà. Le hérisson Jefferson a la loupette trop longue. Il décide donc de se rendre chez son coiffeur préféré, le blaireau Monsieur Edgar. Jefferson s'y rend à pied et manque de se faire renverser par deux humains en voiture. La journée commence mal. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Arrivé au salon définitif... Et oui, les animaux coiffeurs anthropomorphes font aussi des jeux de mots pourris sur les salons de coiffure. Le hérisson découvre le corps sans vie de Monsieur Edgar, une paire de ciseaux plantés dans le cœur. Alors, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vais vous lire justement l'extrait dans lequel Jefferson découvre le corps. Jefferson s'avança lentement et appela encore. « Monsieur Edgar, Mademoiselle Carole, c'est Jefferson, je me suis permis... » La chèvre dormait ferme sous son casque, la bouche entrouverte sur un dentier impeccable, un mince filet de salive descendait au ralenti sur son menton. Elle semblait flotter dans une douce béatitude. Peut-être rêvait-elle de ses arrière-petits biquets. Jefferson contourna le premier fauteuil tournant, qui était vide de tout occupant, et ce qu'il vit d'abord, ce fut les deux chaussures crème de Monsieur Edgar pointées vers le plafond. Un pas de plus, et Jefferson découvrit les deux jambes parallèles alignées sur le sol, puis le tablier blanc soigneusement boutonné jusqu'en bas, puis, en remontant, la paire de ciseaux, dont l'une des branches était enfoncée jusqu'à la garde dans le torse de M. Edgar. Le sang dessinait sur le tissu du tablier une large tache rouge, dont la forme rappelait la carte de Madagascar. Ironie du sort, le mot définitif était brodé juste au-dessus. Jamais le salon de coiffure n'avait aussi bien porté son nom. Monsieur Edgar semblait dormir comme sa cliente, mais lui ne rêvait à aucun biquet. Il ne rêvait plus à rien du tout, il était mort. Jusqu'à ce jour, la vie avait heureusement préservé Jefferson. Il n'avait jamais été confronté à une émotion aussi forte, si bien que sa réaction fut spectaculaire. Il commença par suffoquer, puis il émit un bruit étrange qui faisait à peu près qu'on pouvait traduire en bon français par « fichtre ». Voilà un spectacle tout à fait étonnant. Il continua par « qui signifie à peu près « il semblerait que cette personne ne soit pas décédée d'une mort naturelle. Selon moi, il s'agirait même bien, bel et bien d'un meurtre ». Et il conclut par un long et plaintif dont le sens approximatif était « on a beau dire, ça fait quelque chose de voir ça. Voilà donc pour l'extrait de Jefferson. Évidemment, tout accuse l'hérisson de Jefferson. D'autant plus que paniqué, il prend la fuite. C'est pas la meilleure idée à avoir. Mais accompagné par son meilleur ami, le cochon Gilbert, Jefferson va mener l'enquête pour prouver son innocence. Voici un super roman policier pour les enfants à partir de 9 ans. Par un auteur ultra prolifique, méga plébiscité et multi-récompensé, Jean-Claude Mourleva. Vous le reconnaissez peut-être, c'est l'auteur de la balade de Cornebic, La rivière à l'envers ou encore L'enfant océan. L'intrigue est bien ficelée, le rythme haletant, le suspense soutenu jusqu'au bout. Bref, un roman policier digne de ceux des adultes. Bon, sans trop d'hémoglobine non plus, ni de tueurs en série sanguinaire, mais avec une enquête tout aussi bien construite. L'humour, comme vous avez vu dans l'extrait, est aussi au rendez-vous, notamment grâce au personnage de Gilbert. Et moi, ce qui m'a le plus plu, c'était l'univers, qui est super original. Les humains et les animaux cohabitent. Enfin, pas tout à fait. Les humains vivent dans un pays, les animaux dans un autre, et chacun peut visiter le pays voisin en touriste. Mais les préjugés sont nombreux, et les humains se considèrent bien supérieurs que les animaux. Ça ne vous rappelle rien d'ailleurs ? Séparés mais égaux ? Non ? C'est la ségrégation raciale. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Après, chacun peut juger. Bref, Jefferson est un roman engagé sur une problématique sociétale très actuelle, la condition animale. Et c'est mon coup de cœur pour la sélection des dévoreurs, aussi bien pour la liste des CM que des 6e. D'écouter Panic at the Disco with High Hope.
Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire. T'as pas lu Proust? Oh là là, je te crois pas.
Alors Élise, on a parlé un peu de ton travail, que tu étais bibliothécaire jeunesse à la médiathèque départementale de l'Eure. Nous, on travaille avec toi, donc on sait un peu en quoi consiste ton poste. Est-ce que pour les auditeurs, tu peux expliquer un peu ce que vous faites à la médiathèque départementale?
Oui, bien sûr. Donc nous, on est la médiathèque départementale de l'Eure, située à Évreux, à ne pas confondre avec la médiathèque d'Évreux. Nous faisons l'acquisition en fait de tout document livre, CD, DVD, matériel d'animation que nous prêtons aux bibliothèques de l'Eure. Donc on a 110 actuellement sur le territoire. Les bibliothécaires viennent deux fois par an environ choisir les documents qu'on prête pour leur établissement, pour qu'ils puissent être chez vous en plus, en fait, vous pouvez venir les emprunter. Et donc c'est un plus pour les bibliothèques de l'Eure. Et nous sommes aussi organisme de formation. Nous avons des professionnels qui viennent donner des formations chez nous. Et nous-mêmes, sur certains thèmes, dans nos domaines spécifiques, comme moi la jeunesse, on donne des formations bibliothécaires. et nous gérons donc le comité de lecture, comme j'expliquais tout à l'heure. Et aussi, nous avons la sélection du Petit Lu, donc une sélection d'ouvrages pour la jeunesse, les meilleurs que nous avons sélectionnés toute l'année. Il y a le mois du film documentaire aussi, et d'autres actions comme ça.
Le catalogue Petit Lu que vous retrouvez dans les bibliothèques à votre disposition.
Le tout nouveau vient d'arriver.
Oui. Ouais.
Donc on parlait du prix des dévoreurs de livres. Donc c'est un prix à destination des auteurs.
Oui.
Quel lien avez-vous, vous, avec les auteurs ?
Alors, quand nous sélectionnons la liste des ouvrages retenus, nous contactons les auteurs pour savoir s'ils peuvent venir rencontrer les élèves, les classes inscrites, qui vont les rencontrer là, de janvier à avril à peu près. Donc la librairie L'Oiseau Lire contacte souvent les auteurs pour savoir quel jour ils vont être disponibles. Et là, on leur dit, vous venez tel jour pour rencontrer telle classe, etc. On est aussi au fait de ce qui se passe. On va au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Là, c'était le lundi 3 décembre, donc on y est allé avec ma collègue. Et là, on peut directement prendre des contacts avec les auteurs plutôt que de passer par les éditeurs. C'est parfois plus facile. On peut défendre notre prix de vive voix et c'est quand même plus sympa. Mais c'est un partenariat, encore une fois, avec la librairie.
Est-ce que les auteurs ont quelque chose à gagner, du coup ?
Oui, ils reçoivent une somme d'argent. Et puis, ça leur fait une assez grande publicité. Ils sont invités à venir donc à la remise des prix. Là, elle aura lieu le mercredi 5 juin 2019 à l'hôtel du département. Donc, ils viennent en personne et rencontrent les élèves ambassadeurs du prix des dévoreurs.
Est-ce que, du coup, vous avez eu des bons contacts avec certains des auteurs qui vous ont marqué et qui donnent envie de continuer ?
Oui, il y a plein de souvenirs différents. On a pu avoir des auteurs qui sont venus, qui avaient écrit un livre sur c'était le monde des sorcières et des sorciers. Et on a vu toute la classe arriver, déguisée en sorcières et en sorciers, pour venir lui rendre hommage. C'était des situations assez cocasses, oui, c'est vrai. Et ça marche chez vraiment les plus petits, voilà, et jusqu'au chez les plus grands.
Et est-ce qu'on peut déjà donner certains noms d'auteurs qui viendront ou c'est encore confidentiel pour cette année ?
Non, je peux déjà donner quelques noms. On a donc Jean-Claude Mourlevat qui va venir. Donc pour les classes, je précise, il y aura quelques rencontres dans certaines médiathèques aussi avec d'autres auteurs. On a Manon Fargeton, on a Clépentine Beauvais, Julien Hervieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eric Pessan, Marion Achard. Oui, il y en a. Je crois qu'il y en a il doit y en avoir une quinzaine.
Ah, c'est déjà assez énorme.
Oui, ouais, ouais.
Ouais, pour info, il y a déjà 6 classes du collège et de l'école primaire de Breteuil qui participent. Je ne sais pas, du coup, dans les autres communes, je crois qu'on est les plus gros participants.
Nous, mais... à Verneuil, il y a une enseignante du collège qui est extrêmement impliquée. Donc, les élèves s'inscrivent de manière individuelle, mais ça représente, oui, 2 classes de 6e pour l'instant.
Oui, on a sur le département, on a 60 classes de collège inscrites.
Et les enfants peuvent aussi s'inscrire de manière individuelle dans les médiathèques.
Oui.
Donc, on a tous les petits bulletins d'inscription. Surtout, n'hésitez pas.
Et sur le site de la médiathèque départementale également, vous pouvez trouver le bulletin d'inscription avec la liste des ouvrages. Il faut s'engager à lire 3 des ouvrages sur les 6 pour pouvoir voter.
D'accord.
Je vais laisser la parole à Sandrine qui va vous présenter son coup de cœur 6e.
Donc c'est super, je viens de voir que l'auteur sera là, Marion Achard. Ça s'appelle « Trop de chefs, pas assez d'indiens ». C'est l'histoire de Lali, une passionnée par la culture amérindienne. Avec sa meilleure amie, Patty, elle réalise aussi toutes sortes d'expériences tirées de livres d'aventures qu'elle dévore. Patty est une excellente élève. Par contre, Lali a beaucoup de mal à se concentrer en classe. Elle arrive le matin à l'école, la peur au ventre, car elle est dans le collimateur d'une enseignante particulièrement sévère. Un mercredi après-midi, Lali rencontre un jeune homme, Aldo, qui campe près de son village. Elle se lie très vite d'amitié avec cet Indien des temps modernes qui voyage avec son âne. Elle y trouve une échappatoire aux disputes que ses parents, ainsi qu'à la tyrannie de sa maîtresse. C'est un roman à la fois drôle, touchant, émouvant. Marion Achard traite dans ce roman le thème de la phobie scolaire avec une certaine subtilité grâce à son personnage de Lali, une jeune fille à l'imagination débordante, incomprise, voire taxée de dérangeante par les adultes. Je vais vous lire le début du livre qui vous met dans l'ambiance. Je m'appelle Lali, j'ai 10 ans, je suis une guerrière Cherokee, fille d'un chef indien des montagnes Appalaches et d'une chamane réputée bien au-delà des collines brumeuses de notre village. Je me distingue par mon courage et mon agilité, et sur tout le territoire, on me nomme Lali, reine des forêts profondes. Ce titre prestigieux reste toutefois un secret bien gardé entre vous et moi. Disons que je suis plus communément connue sous le nom de Lali range ta chambre, ce qui heurte nettement à ce moment-là l'estime que j'ai de moi. Les adultes trouvent mon imagination aussi débordante que dérangeante. Ils chuchotent à mon sujet, soupirent de consternation. J'entends parfois au détour d'une porte le mot « exubérante ». Je ne vois pourtant absolument pas ce qu'ils voudraient que je change. M'accommoder de leur ennui ? Non merci. À l'école, je me suis toujours arrangé des menaces et des mots dans le cahier. La mise au piquet est la punition que je préfère. Car le mur est écaillé, au fond de la classe, il y a cette lézarde qui me permet de m'échapper. Une lézarde, c'est un chemin. Et un chemin, c'est le début de la liberté. En dehors de l'école, j'ai ma copine Patty, les collines boisées qui entourent le village, les livres entassés dans le grenier de la maison et toutes les merveilles qui se cachent dans les tiroirs. Clés, ficelles, clous, scies, cartes, décapsuleurs, cordes de guitare, stylos sans mine, jetons de supermarché, billes d'aluminium, bouchons en liège, couteaux, de quoi m'occuper. Jusqu'à la semaine dernière, je ne manœuvrais pas trop mal. Et puis, il y a eu cette histoire d'allumettes. Trois malheureux petits bouts de bois humides que j'avais cachés dans mes cheveux. Je crois que c'est à ce moment-là que tout a dégénéré. Jamais je n'aurais imaginé une banale expérience déclencherait un tel tremblement. Je sais que j'étais surveillée depuis un petit moment, mais ce jour-là, on m'a cataloguée comme incorrigible et potentiellement dangereuse. Alors que moi, j'ai juste voulu vérifier. J'avais lu dans un roman d'aventure que pour utiliser des allumettes mouillées, il fallait les enrouler dans des mèches de cheveux pour en absorber l'humidité. C'était bon à savoir, mais j'ai préféré m'en assurer parce que dans les livres, ils prennent parfois les enfants pour des idiots et écrivent des vérités qui n'ont pas été vérifiées. Je le sais parce qu'un jour, mon père m'a offert un vieux manuel des castors juniors. Dedans, j'ai déniché le code Morse et je l'ai appris par cœur. Mais en regardant sur Internet, j'ai découvert avec horreur que les auteurs avaient écrit n'importe quoi, se contentant d'aligner les traits et les points n'importe comment. J'avais imprégné mon cerveau d'un code non seulement inutile, qui utilise le morse, mais en plus complètement faux. Or, désapprendre quelque chose qu'on a appris est quasiment impossible. Il faut déprogrammer sa mémoire pour y effacer la chose qu'on s'est forcé à imprimer. C'est comme quand on apprend mal l'orthographe d'un mot. On a toujours un doute, parce que le cerveau se souvient de ce qui lui a été inculqué en premier. Réapprendre le vrai code Morse m'a donc pris un temps fou. Pour l'orthographe, j'ai renoncé. Tout ça pour expliquer pourquoi le coup des allumettes, j'ai préféré vérifier. Allumer un feu, ça peut sauver une vie. Il ne faut pas rigoler avec ça. Le jour où mes parents m'abandonneront sur une île déserte, avec seulement 3 allumettes humides pour m'en sortir, je ne ferai pas la bêtise de les gratter tout de suite. Je les mettrai dans mes cheveux et j'attendrai. Au moins le temps d'une dictée. En classe, j'ai tâté mon crâne toutes les 2 minutes pour vérifier que les allumettes étaient toujours à leur place. Le plus difficile, finalement, c'était d'éviter qu'elles ne glissent et d'avoir la patience d'attendre la récré pour vérifier. Si bien que quand ça sonnait, je me suis précipitée dehors. Patty m'a suivie en trottinant. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Une expérience. » Elle a souri. « J'adore tes expériences. » Je lui ai adressé un clin d'œil complice, puis j'ai observé la cour comme si je pouvais soudain y dénicher un coin tranquille et inconnu. L'endroit le plus discret restait encore le bosquet juste à côté de la cantine. Nous nous sommes cachés là. Nous étions donc réfugiés près des buissons, Patty et moi. J'ai bien vérifié que personne ne nous regardait et je me suis accroupie pour creuser un trou entre les racines avec la pointe d'un bateau. Trouve des brindilles et des feuilles sèches. Patty est partie explorer les alentours. Ça a été probablement notre erreur. En Amérique du Sud, il y a une tribu d'Indiens appelée les Invisibles. Ils se peignent le corps avec des couleurs vertes et brunes comme la forêt qui les entoure. Ils restent debout contre les feuilles. On ne les voit plus. Même leur cage thoracique ne bouge pas quand ils respirent. On peut passer à côté d'eux sans les remarquer. Tellement immobiles qu'ils en deviennent invisibles. Alors que Patty et moi, nous étions loin d'être discrètes avec nos habits colorés. Tandis que Patty s'agitait en cherchant du bois mort, j'ai émietté une écorce au-dessus du trou. Puis j'ai sorti mon grattoir. « Tu ne mets pas du papier ? Mon père, il met toujours du journal pour allumer le poêle. » J'ai froncé les sourcils. Où est-ce que tu trouves du journal sur une île déserte ? Elle n'a rien ajouté et s'est accroupie en face de moi. J'ai frotté la première allumette, mais le bout rouge s'est écrasé en laissant une grosse traînée sur le grattoir. Je ne faisais pas la maligne. Isolée sur une île déserte au fond de la cour d'école, je n'avais plus, pour nous sauver la vie, que deux morceaux de bois blond et le regard déçu de mon ami. J'ai regardé l'état des autres allumettes. Normalement, j'aurais dû attendre la récré suivante, mais mon impatience était trop forte. Beaucoup d'explorateurs sont morts à cause de leur acharnement. Les aventuriers ont du mal à renoncer et les conséquences sont parfois très graves. Et moi-même, si j'avais attendu, beaucoup de soucis auraient été évités. J'ai gratté la deuxième allumette. Elle a grésillé avant de libérer un pet de fumée. C'est là que j'ai entendu quelqu'un hurler. « Arrêtez ça tout de suite !» Un coup d'œil sur ma gauche m'a confirmé qu'une tornade arrivait droit sur nous. Blanche de rage, elle agitait ses jambes dans une tentative d'accélération désespérée. Mais je n'ai pas eu peur. Patty s'est redressée, me cachant un peu. Je savais que quelques instants plus tard, le vent de la colère allait souffler définitivement sur mon expérience. Alors, j'ai joué le tout pour le tout. J'ai donné mon troisième coup de poignet et sous nos yeux ébahis, l'allumette s'est enflammée. Le visage de Patty s'est illuminé. Ça marche ! J'ai faufilé l'allumette sous le petit cône de brindille, l'odeur de l'écorce sèche est montée et j'ai murmuré satisfaite « Essence de platane ». Voilà, c'est comme ça que mes ennuis ont commencé, à cause de trois malheureuses allumettes humides et de mon âme d'aventurière. J'espère que ça vous donnera envie. Tout le roman est sur ce ton et elle est super sympa, Lali. Donc, Anne-Marie, oui. Tu vas nous présenter Bibi Scott,
oui, Bibi Scott,
détective à roller.
Voilà, dans l'épisode d'aujourd'hui, Chasse au scoop, donc de Clémentine Beauvais. Donc Bibi Scott est une jeune fille de 11 ans qui vit avec ses parents à Cambridge Université. Donc moi j'avais choisi aussi de lire le début pour qu'on puisse ressentir la personnalité de Bibi Scott. On ne naît pas détective à roller, on le devient. Et croyez-moi, moi c'est-à-dire Bibi Scott, comme indiqué sur la couverture, c'est plus compliqué qu'on ne l'imagine. Pour ça, il faut, primo, une paire de rollers, violet, et, secondo, suivre ce petit principe de vie. Quand on a autant de neurones dans le cerveau qu'il y a d'étoiles dans l'univers, à quoi bon rêver de super-pouvoirs ? Du moment qu'on a des pieds pour courir et patiner, des mains pour grimper et nager, pourquoi vouloir voler ? Bon, évidemment, il faut aussi un mystère à résoudre. Et ça, je peux vous dire que c'est beaucoup plus rare que les rollers et les principes de vie. Surtout à Cambridge, où j'habite. Cambridge, c'est une université, mais c'est aussi la petite ville qui l'entoure, la plus paisible et la plus ennuyeuse d'Angleterre. En même temps, je ne connais pas toutes les autres. Mais après 11 ans, 5 mois et 17 jours d'attente, une mystérieuse mission a enfin croisé ma route. Et je suis devenue la première détective à roller autodidacte de Cambridge. Tout a commencé un dimanche après-midi plutôt normal, où, comme d'habitude, mes parents n'avaient rien de mieux à faire que de se poser des questions bizarres sur mon compte. « Je me demande, » a marmonné le professeur Scott, ma mère, « si les mauvaises manières de notre fille sont dues à une nature fondamentalement diabolique ou à une négligence de notre part. » « Les enfants ne sont pas diaboliques par nature, chérie, » a répondu le révérend Scott, mon père. Je crains donc que nous n'ayons commis une erreur quelque part. Ils ont levé les yeux vers moi. Oui, levé, parce que j'étais perchée sur un arbre. Enfin, dans un arbre. Qu'est-ce que tu fabriques, Sophie ? À mon grand regret, mes parents vivent dans l'illusion que leur fille se nomme Sophie, Margaret, Catriona, Scott. N'importe quoi. Appelez-moi Bibi. Je joue avec le chat et avec mes jumelles. Ne regarde pas dans les chambres des étudiants, c'est mal poli. « Mère, je ne regarde jamais dans les chambres des étudiants. Elles sont au mieux sans intérêt, au pire dégoûtantes. » Vivre entourée d'étudiants n'est pas facile, mais je n'ai pas le choix. J'habite dans l'un des 31 collèges de l'université de Cambridge. Les collèges sont de grandes maisons où l'université range ses étudiants. Ils y dorment, mangent et travaillent en produisant au passage divers bruits et odeurs. Si je vis là, c'est pour des raisons parentales. Ma mère est la directrice de Christ College, Université de Cambridge, Royaume-Uni. Terre. Ici, on appelle ça une doyenne. Ce qui fait d'elle la reine locale et de moi une princesse. J'ai donc pu rayer « devenir princesse » dans ma liste de choses à faire. Quant à mon père, qui aurait pu se contenter d'être le prince consort, il a préféré devenir pasteur. Alors on l'appelle révérend. C'est son titre. L'arbre à la terre, l'arbre à la terre. Attention, Peter Mortimer s'apprête à descendre. Mes parents n'ont pas réagi. La terre, vous me recevez? Peter Mortimer va sauter, je ne plaisante pas. Toujours rien. Débarquement imminent de Peter Mortimer. Charlie Hotel Alpha Tango. Dans 3, 2, 1. Ils auraient dû m'écouter. L'atterrissage de Peter Mortimer sur le crâne de mon père a visiblement été très douloureux. Oh, ce chat! Je vais lui arracher les griffes. Père, je te rappelle que c'est Dieu qui les lui a donnés. Le problème avec Sophie, c'est qu'elle est aussi manipulatrice que Georgias, a soupiré maman. À mon grand regret, mes parents vivent dans l'illusion que Peter Mortimer se nomme Bouboule. C'est injuste de réduire ainsi quelqu'un à son problème de poids. Bien évidemment, Peter Mortimer leur en veut et ne cesse de leur rapporter divers cadavres pour exprimer son ressentiment. Une fois de plus, ça n'a pas raté. Ça suffit, Bouboule, tu ne peux pas laisser les souris en paix. Dis donc, maman, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Elle assassine environ 20 souris par jour. En plus d'être doyenne, elle est professeure de médecine thérapeutique. Ce qui signifie qu'elle contamine des souris de laboratoire, qu'elle essaie de les soigner et qu'elle échoue la plupart du temps. D'où connaît-elle cette expression, s'est étonné papa. Dieu seul le sait, elle a dû entendre un étudiant l'employer. Sans vouloir me jeter des fleurs, il se trouve que j'ai un goût prononcé pour les excentricités lexicales. Autrement dit, les phrases compliquées. Etc, etc. Donc on voit que Bibi est dotée d'un sens de la répartie à toute épreuve. Elle n'a peur de rien, elle est vive, curieuse, à l'affût. Or un jour, elle apprend que Jenna Jenkins, étudiante, mais aussi rédactrice en chef du journal, du magazine à scandale de l'université Scoop à Cambridge, a disparu depuis 2 jours. Or, Jenna devait tenir le premier rôle dans le ballet de fin d'année, Le Lac des Cygnes. Voilà de quoi aiguiser la curiosité de Bibi. La petite détective prendra quelques risques à l'insu de ses parents, parce qu'il se trouve que la fenêtre de sa chambre donne sur une petite terrasse contre laquelle est accoudé un gros arbre. Elle n'a plus qu'à se laisser glisser le long du tronc pour atterrir au milieu d'un massif de fleurs et ainsi sortir de chez elle, ni vue ni connue, et évidemment sans l'autorisation de ses parents. Avec l'aide de ses amis Gemma et Toby, elle mènera son enquête pour essayer de retrouver Jenna. Alors, est-ce une rivalité de danseuse, une vengeance, une escroquerie? Vous n'êtes sûrement pas prête d'imaginer ce que Bibi va découvrir au sein de l'université, ni les moyens pour y parvenir, et ça, c'est pas moi qui vous le dirai aujourd'hui. Là est l'originalité de ce roman à suspense de 220 pages publié chez Rajo.
Et illustré.
Oui, 220 pages avec des belles illustrations.
Oui, voilà. Des petits. C'est vrai que Bibi est croquée, oui, régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a une police de caractère au moins de 14 et des illustrations. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing now. Energy's taking control. I'm speeding up. My heartbeat's dancing along. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight.
You think tonight?
Cause I need a green light. Day and night, say that you're mine. Cause I need your green light. Day and night, say that you're mine. Say that you're mine. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight. Vous venez d'écouter Promises de Sam Smith et Calvin Harris. Et du coup, pour rappel, Sandrine nous a présenté Trop de chefs, pas assez d'indiens de Marion Achard pour niveau 6e. Et Anne-Marie Bibiscotte, détective à roller de Clémentine Beauvais, niveau 6e également.
Alors Élise, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup des auteurs, mais au final, c'est un métier qu'on connaît peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le métier d'écrivain ?
Alors, en ce qui concerne les auteurs jeunesse, ce qui nous intéresse là, on a la charte des auteurs jeunesse qui existe. On a une indication de rémunération, parce que les auteurs, là, comme on le disait, on les fait venir dans les classes pour qu'ils rencontrent les élèves. Et donc, un tarif est proposé pour une demi-journée, pour une journée. Et c'est la loi maintenant. Ils ont ce tarif pour eux. Et donc, parce qu'il faut savoir qu'un auteur gagne environ 6% sur le prix d'un livre. Donc sur un livre à 10 euros, il va pas gagner grand-chose. En fait.
Ouais, vraiment quelques centimes.
C'est ça.
Et donc intervenir comme ça dans les classes, sur des salons, ça fait pleinement partie de leur métier.
C'est ça. Ils peuvent faire des ateliers d'écriture. Bon, il y a aussi les illustrateurs. Hein. On peut aussi faire venir pour les illustrations. Ça fait vraiment partie de leur métier. Ils sillonnent les salons et le prix des devoirs de livres dans l'heure. Et il y a ce type de prix quand même. C'est assez développé en France. Donc
ça les aide bien.
Oui, c'est une grosse partie de leur métier finalement, en plus d'écrire leurs livres. Et il leur faut du temps pour écrire les livres. Et les auteurs ont souvent un métier à côté.
D'accord.
Oui, ça arrive vraiment très souvent.
D'accord, parce que justement, ils ne vivent pas suffisamment de leur métier d'auteur, donc ils doivent avoir un plus.
Oui.
D'accord. D'autres questions, les filles, sur le métier d'auteur ?
Il me semble que souvent, ils sont professeurs à côté, enfin, professeurs de français parfois.
Oui, ils travaillent chez des éditeurs aussi.
Oui.
Oui. Il y a plusieurs cas de figure. Ils sont souvent enseignants, mais ce n'est pas la majorité quand même.
Alors moi, je trouve que tout le monde ne peut pas être à l'aise avec ce public jeunesse, avec les rencontres de collégiens.
Oui.
Est-ce que parfois vous avez des refus ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui ne veulent pas ?
Il y a des auteurs qui ne veulent pas rencontrer les classes. J'ai eu une auteure, on peut dire une autrice maintenant aussi, qui m'a dit clairement qu'elle n'aimait pas les enfants.
Elle écrit pour les enfants ?
Oui.
On ne donnera pas son nom.
C'est déjà arrivé.
Et on ne sait pas ce qu'elle écrit.
Par contre, elle a écrit.
Mais c'est elle. Enfin voilà. Après, il y a vraiment plusieurs. C'est vrai qu'on a déjà invité des auteurs qu'on ne réinvitera pas parce que c'est vrai qu'avec les classes, avec les enfants, ça passe pas bien. Et d'autres qu'on a envie de réinviter tous les ans. Et justement, dans la sélection, on essaye de pas. Non plus que un auteur soit invité tous les ans, même si son bouquin est excellent. Donc d'où la difficulté, si l'auteur écrit un livre excellent tous les ans, on a envie de le mettre tout le temps dans la sélection, mais on a envie de promouvoir aussi les auteurs qui ont fait un premier roman, qui se démarquent un peu dans la littérature de jeunesse.
D'accord. Et est-ce que quand vous invitez un auteur à venir, est-ce que c'est lui qui choisit ce qui va être fait dans la classe ? Ou est-ce que c'est plutôt ce sera un échange ou un atelier
En général, c'est sous forme d'échange parce qu'on n'a pas assez de temps pour faire un atelier. Après, on essaie de se caler quand même je dirais pas les exigences, mais aux envies, aux désirs de l'auteur, parce que le maître mot du prix des dévoreurs de livres, c'est le plaisir de livre, donner envie. Donc, si on peut un petit peu dévier de la simple rencontre, questions-réponses, qui vous êtes, etc., ça peut quand même donner.
Il y a un auteur à Breteuil, justement, cette année, qui proposera. Une démonstration d'escrime, parce qu'il parle d'escrime dans son livre.
C'est ça, c'est
donc,
Richard
j'ai
Coyer.
J'ai hâte de voir la tête des enfants.
Richard Coyer qui a écrit « J'embrasse pas », où l'héroïne apprend à faire de l'escrime dans le roman. Et donc l'auteur va...
Pour se rapprocher du garçon qu'elle aime.
Oui,
juste
c'est
ça.
Oui, mais elle a son frère qui est,
c'est ça.
Qui est champion.
Oh, c'est sympa, comme roman.
Et donc, Richard Coyer va faire une démonstration. Donc là, ce sera vraiment une rencontre qui sort de l'ordinaire.
Ah,
c'est vrai que
oui.
Ça fait plaisir. Et on mettra un retour de ça sur notre site. Ça sera sûrement filmé, etc.
Alors, il me semble, Élise, que tu voulais aussi présenter un livre.
Oui.
Donc, dans la sélection cinquième, il me semble.
C'est ça, dans la sélection cinquième. Je voulais vous présenter Miss Pouk et les enfants de la lune de Bertrand Santini chez Grasset Jeunesse. Bertrand Santini, il a écrit, je ne sais pas si vous connaissez, le journal de Gertie, qui est une petite série de romans jeunesse avec un chien et en héros. Et c'est déjà assez sympathique. Et là, on change totalement d'univers. C'est un peu un roman, j'irais, steampunk. Pour les plus jeunes. Donc, c'est un sous-genre de la science-fiction, de la fantasy. On dit souvent qu'il y a de la vapeur parce que dans le cadre narratif, ça se passe à l'époque victorienne. Il y a souvent des inventions avec les machines, etc. Et là, on part d'un univers fantastique. Donc, on est à Paris en 1907. Et Miss Pouk est engagée comme gouvernante auprès de la petite Élise. Sous des faux airs de Mary Poppins, elle réussit à tromper son monde pour mieux enlever la petite fille parce qu'elle lui fait croire que ses parents vont la manger pour son anniversaire. Donc, elle réussit à la convaincre d'aller sur la lune avec elle parce que forcément, elle sera plus heureuse là-bas et pas mangée par ses parents. Et elle monte sur le dos du dragon de la sorcière parce que, en fait, cette Miss Pouk est une sorcière, le dragon Goldorion. Donc, c'est un récit assez très très rythmé, enchanteur, où on part d'un univers revisité sur les contes et la littérature classique. Du coup, les enfants découvrent plein de références. On a les sorcières de Roald Dahl, on a Alice au pays des merveilles, on a des créatures mythiques. Et en même temps, ça peut leur donner envie d'aller plus loin et donc de découvrir cet univers de contes. Et en même temps, même s'ils ne connaissent pas, ça ne gêne pas la lecture du roman. Donc on se laisse emporter, c'est fantastique, c'est enchanteur, mais en même temps c'est assez noir parce que il y a, bon là c'est un tome 1 et la petite fille va quand même être amenée à rencontrer des créatures horrifiques comme des vampires, etc. Et c'est enchanteur et en même temps ça fait peur.
Ça donne envie. Un petit côté Mary Poppins je trouve au début et là avec le nouveau Mary Poppins qui sort au cinéma, ça
oui,
peut
c'est vrai.
Inciter un peu les enfants
ouais.
Mais à découvrir mes spooks.
Une Mary Poppins
oui,
assez sombre.
Assez sombre et qui fait un peu plus peur.
Mais on aime ça avoir peur.
Tout à fait. Surtout à cet âge-là.
Oui.
On va partir à peu près dans la même époque finalement avec Amélie.
Mais un style différent.
Voilà, un style, oui, complètement différent.
Complètement différent, puisqu'on part sur un roman historique. Donc je vais vous présenter Marie et Bronia, le pacte des sœurs, de Natacha Henry aux éditions Albin Michel. Donc en fait, c'est un roman historique qui se passe en Pologne, à Varsovie, à la fin du 19e siècle. On est du coup en Pologne, c'est occupé par l'armée russe et la Pologne est rattachée à l'Empire du Tsar. Par crainte d'une révolte, les Polonais sont surveillés de près, donc ils n'ont plus le droit de parler leur langue natale, ils sont obligés de parler le russe. Leurs conversations sont écoutées, donc il y a une ambiance de plomb qui s'abat sur eux parce que du coup les Russes ont vraiment peur d'une révolte. Au niveau du roman, on est plongé dans une famille en particulier, celle de Vladislav et Bronislava, excusez-moi pour l'accent, et leurs 5 enfants. Le père veut absolument que ses enfants, alors qu'ils soient filles ou garçons, aient le droit à l'éducation, pour qu'ils puissent avoir plus tard une bonne situation et qu'ils puissent aussi réfléchir sur toutes les problématiques du pays. Pour lui, c'est vraiment important que les enfants soient cultivés pour pouvoir sortir de cette emprise, en fait. Malheureusement, la maman tombe malade et les soins médicaux sont très, très élevés. Donc, pour pouvoir payer les frais médicaux et soigner la maman, les enfants sont déscolarisés, puisque les frais de scolarité sont aussi élevés. Donc, pour 5 enfants, on imagine que c'est un peu compliqué. Mais la maman, voilà, va malheureusement décéder. Et le père sera ruiné, du coup. Et il a beaucoup de peine. Il est vraiment peiné et plein d'amertume de se rendre compte que ses enfants ne pourront pas avoir une bonne situation plus tard et qu'il s'en sent complètement responsable. Donc, sur l'autre partie du roman, ça se découpe. On part de la situation familiale globale et on va se focaliser sur l'histoire des deux sœurs de la famille, donc Marie et Bronia. Marie, c'est la célèbre Marie Curie qu'on connaît tous. On le découvre vraiment à la fin du roman. Marie rêve de devenir chimiste et Bronia médecin pour soigner du coup les personnes atteintes de la maladie qui a emporté sa mère. Donc je sais plus, mais il me semble que c'est une tuberculose ou quelque chose dans ce genre-là. Vu que les Russes mettent une emprise très importante sur la scolarité, etc., ils interdisent aux femmes, aux filles, de faire des études. Et elles veulent vraiment pas renoncer à leurs rêves. Donc on a Marie qui un soir va vouloir sceller un pacte avec sa sœur pour qu'elle puisse partir en France faire leurs études. Et en fait, Marie propose de devenir gouvernante pour financer les études de Bronia et que lorsque Bronia aura obtenu son diplôme et deviendra médecin, c'est elle qui financera à son tour les études de sa sœur. Du coup, j'avais préparé un petit extrait à vous lire et j'ai perdu ma page. C'est un peu embêtant. C'était au moment, du coup, où elles faisaient leur... Okay. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Tout va bien. C'était pas bien loin. Donc, c'est le moment où elles scellent leur pacte. Donc, quand chacune fut bien installée dans son lit, Bronia souffla sur la lampe à pétrole, plongeant la pièce dans l'obscurité. Bonne nuit, Marie. « Attends. Quoi ? J'ai une idée. Quoi encore ? Rallume !» Bronia soupira et s'exécuta de mauvaise grâce. Elle venait d'accepter l'idée qu'elle ne ferait jamais médecine, ce qui pour elle représentait un renoncement déchirant, et elle n'était pas d'humeur à discuter. Elle avait envie de dormir. « Tu peux partir pour Paris, » annonça Marie. « J'ai trouvé la solution. Je vais prendre un emploi fixe et t'envoyer de l'argent nécessaire. »« Un emploi ?
je vais me présenter à l'agence qui recrute des gouvernantes. Il y a toujours des familles qui cherchent quelqu'un pour instruire leurs enfants à domicile. Je serai bien payée. Je pourrais sûrement t'envoyer dans les 40 roubles par mois. » Pour la seconde fois de la soirée, Bronia sentit les larmes lui monter aux yeux. Son ventre se noua. À la lumière de la lampe à pétrole, elle se redressa sur son oreiller et contempla Marie, sa petite sœur, un peu fantasque et un peu fragile, qui jusqu'à tout récemment ne parlait que de mazurka et de carnaval. Celle à qui elle avait appris à lire et à compter, il n'y avait pas si longtemps, et qui brillait soudain d'une incroyable maturité. Afin que Bronia vive son rêve, elle était prête à aller travailler chez des inconnus, à se sacrifier pour ses ambitions. Bronia refusa aussitôt. « Et toi alors ? Toi aussi tu veux devenir étudiante ? Faisons plutôt l'inverse, d'accord ? Tout le monde sait que tu es brillante, Marie. Tu pourrais t'inscrire à la Sorbonne en sciences physiques et moi devenir gouvernante à Varsovie. » « Je te rappelle que tu es l'aînée, » rétorqua Marie. « À toi l'honneur. Dès que tu auras obtenu ton diplôme, nous inverserons. Tu rentreras à Varsovie, j'irai à la Sorbonne et tu m'entretiendras avec ton salaire de médecin. Les Russes ont interdit aux filles de faire des études, pas de gagner leur vie. Bonne nuit. » Voilà, donc ce petit passage qui vraiment représente vraiment tout le roman, qui fait que tout le roman a son importance. Donc c'est une biographie qui est quand même bien romancée, qui plaira certainement davantage aux filles, puisqu'on parle quand même d'une complicité entre deux sœurs, mais qui n'est pas du tout à l'eau de rose. L'auteur, il faut savoir qu'elle est historienne, ce qui explique en partie que le contexte historique est très bien présenté et documenté, mais qui n'est pas du tout lourd, et qui n'en, parce qu'on sait que les ados n'en sont pas forcément très férus d'histoire-géographie. Et du coup, ils s'y retrouveront sans aucun souci. Voilà, on apprend vraiment plein de choses et on suit les évolutions de la médecine et les progrès techniques de l'époque. Voilà. C'est un roman qui plaira à coup sûr aussi aux adultes, donc ne pas hésiter à nous le demander, même s'il est en rayon jeunesse. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up.
Human. and something human, human.
C'était Something Human de Muse.
Donc Élise nous disait que pour le prix des dévoreurs de livres, il y avait un partenariat avec les professeurs, donc les classes s'inscrivent. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, bien sûr. Donc les professeurs ont l'information du lancement, je pense, vers le mois de juin, donc grâce à notre référente à l'éducation nationale. Les professeurs donc choisissent de s'inscrire au mois de septembre, d'inscrire leur classe. Il y a une après-midi de lancement pour le prix début octobre où tous les professeurs qui se sont préinscrits viennent au département. Ils viennent donc, on leur présente quelques livres de la sélection, on fait un bilan de l'année et on leur amène toutes les marque-pages, les affiches, la sélection avec les résumés et ils repartent avec toutes les informations. Et ensuite, quand je sais quels auteurs sont disponibles, nous rédigeons des feuilles de route qui leur sont envoyées pour qu'ils sachent quel jour, à quelle heure et quels auteurs ils rencontrent. Donc toutes les rencontres se passent de janvier à avril environ. Et nous, à la médiathèque départementale, on s'arrange pour qu'il y ait assez d'ouvrages dans les bibliothèques proches des établissements pour que les professeurs viennent emprunter les livres. Et peut-être aussi donc, les élèves qui viennent s'inscrire dans les bibliothèques, fréquenter les lieux, emprunter les ouvrages. Ensuite, dans la classe, ça leur permet de faire quelques projets parfois artistiques. Bon, ils font pas que des questions, ils font des poèmes, ils peuvent faire des pièces de théâtre. Il y en a qui font des films sur les ouvrages, sur l'auteur. On a pu avoir ça il y a 2 ans. Ça leur permet d'ouvrir le débat sur plein de choses, plein de sujets et de travailler tout au long de l'année accompagné par la sélection et le prix. Et du coup, forcément, ils axent plus sur l'auteur qu'ils vont rencontrer.
Très bien.
On avait eu l'exemple d'une classe comme ça qui était venue pour un petit roman policier. Les élèves avaient fait le plan de la maison qui était décrite dans le livre. Voilà, ils s'y étaient vraiment retrouvés et ils avaient réussi à faire à peu près le plan. Et du coup, ils l'avaient montré à l'auteur pour qu'elle leur dise si c'était vraiment conforme à...
Et souvent, les auteurs repartent avec des choses improbables dans leur train. Ils ont parfois des choses assez volumineuses. Il y a aussi des carnets de voyage qui sont faits parce que parfois, ce sont des romans d'aventure de voyage. Ils font des carnets de voyage complets sur l'année. Donc,
Un vrai boulot de fourmi pour les profs.
C'est ça.
Ouais, mais en même temps, c'est vraiment un support intéressant pour eux. Voilà, on leur propose des livres de qualité par des auteurs français. Donc, c'est vrai que pour les enseignants qui s'approprient le projet, c'est vraiment...
c'est super. Assez riche.
Oui, tout à fait.
Et ça amène autre chose, une dimension vraiment plaisir de la lecture, autre que les ouvrages qu'ils ont à lire.
Changer des auteurs un peu classiques,
voilà.
Qui doit quand même être difficile pour des élèves non lecteurs.
Oui,
tout à fait.
C'est ça.
Bon courage.
Alors Priscille, je crois que tu vas toi nous parler d'un livre de quatrième.
Oui,
de section
alors je vais vous en parler assez rapidement parce que je vais m'attarder un peu plus sur le second que je vous proposerai. Alors le premier, donc pour la sélection quatrième, c'est le dossier Handel de David Moitet chez Didier Jeunesse. C'est vraiment un policier accessible, je dirais, pratiquement à tous les âges de collège. Là, il a été mis pour les quatrièmes, mais je pense qu'un bon élève de sixième... et un élève de troisième, même bon hein, d'ailleurs, peut largement se retrouver dans ce policier qu'on imaginerait carrément adapté au cinéma. C'est vraiment le scénario typique du bon film policier et un petit peu fantastique. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va un jour rentrer chez lui et se retrouver face à deux faux policiers qui assassinent ses parents. Il s'enfuit avant d'être vu. Il se cache dans sa cabane en bois dans son jardin. Et il dit « Je suis seul, sans mes parents, dans une ville que je connais à peine, avec deux assassins aux trousses et aucune idée de ce qu'ils me veulent. J'ai connu des jours meilleurs. Maintenant, je n'ai plus le choix si je veux m'en sortir. Il va falloir que j'utilise mon don. » Alors, de quel don il parle, je ne vous le dirai pas. C'est le côté fantastique, mais on voit vraiment toute cette cavale de Thomas, qui est un garçon comme les autres, mais avec un petit truc en plus. Et il a beaucoup déménagé, donc il n'a pas vraiment d'amis. Et il va réussir à se retrouver avec un ancien policier en fauteuil roulant, qui est assez, du coup, déprimé par rapport à son boulot, qui s'est retrouvé en fauteuil à cause d'une opération qui a mal tourné. Et aidé aussi d'une retraitée dans une maison de retraite. Donc c'est assez loufoque, mais ça tient complètement la route. C'est vraiment à lire. Même les adultes peuvent s'y retrouver, ça se lit très vite. Et on est en haleine jusqu'au bout. Ça vaut le coup. Le deuxième roman que je voulais vous présenter est cette fois-ci pour les troisièmes. Là, on est dans un roman plus sur une crise familiale. Ça s'appelle « Quand vient la vague ?» Et ça a été écrit par deux auteurs, Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier, chez Rajo. Ils l'ont vraiment écrit à deux. Alors en fait, ils se sont rencontrés lors d'un salon. Et c'est l'éditrice qui leur a proposé d'écrire ensemble. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas. Et ils se sont retrouvés sur ce thème de la quête d'identité, de la fuite, etc. Et du coup, ils ont écrit l'histoire de Nina, 17 ans. Qui se retrouve face à un secret que ses parents cachent depuis le début, en fait. Elle qui s'imaginait être dans une famille tout à fait normale, avec des bons parents, etc., elle se retrouve avec ça sous le nez. Ça la déstabilise complètement et elle décide de ne pas passer à côté, en fait. Elle n'a plus envie d'être dans cette famille, elle ne veut plus voir son père et elle organise petit à petit sa fuite. Dans le roman, du coup, on va avoir le point de vue de Nina, qui découvre ça et qui prépare sa fuite et qui s'enfuit. Et parallèlement, en chapitre entrecroisé, le point de vue de son frère Clément, qui n'est pas encore majeur. Et cette fois-ci, ça se passe un an après. Donc ça fait un an que Nina a disparu. Elle va bientôt être majeure. Les flics arrêteront de la chercher, parce qu'elle a le droit de ne pas rentrer chez elle, de ne plus vouloir parler à sa famille. Et lui, il veut retrouver sa sœur, il n'a pas envie que ça s'arrête là. Et du coup, ça fait un an qu'il ne fait rien et qu'il attend. Et là, il décide de trouver des solutions. Donc, il va partir à la recherche de la raison de la fuite de sa sœur. Et petit à petit, il va arriver à connaître aussi ce secret, mais il va réagir complètement différemment. Donc en fait, il y a un des auteurs qui écrit pour Nina, l'autre qui écrit pour Clément. On ne s'en rend pas du tout compte. Alors Nina, c'est un écrit à la première personne. Et je vais vous lire du coup le prologue qui nous annonce tout. Je claque la porte derrière moi, me laisse surprendre par la température extérieure. Il fait un froid glacial. À chaque expiration, un nuage de buée s'échappe de ma bouche, puis se dissipe comme s'il n'avait jamais existé. Je pose mon sac à mes pieds, ferme les yeux, les rouvre. Comment imaginer que je ne reverrai jamais plus cet endroit ? Alors que je remonte l'allée qui mène au portail, j'ai l'impression de traverser un décor de carton-pâte. Tout autour de moi est parfaitement à sa place. Les pins, la balançoire sur laquelle on jouait mon frère et moi il y a encore 4 ou 5 ans. Les tas de bûches sous la pentille. Rien n'a bougé. Pourtant, ça sonne faux désormais. Sans me retourner, je quitte le jardin pour la rue déserte. En me réveillant ce matin, j'avais peur que des larmes mouillent mes yeux au moment de partir. J'ai lu quelque part qu'un amputé peut ressentir le membre absent, voire éprouver de la douleur là où il n'y a plus que le vide. Ce n'est pas mon cas. Je laisse derrière moi le lieu où j'ai grandi, sans que cela provoque la moindre souffrance. Et ça me soulage. La maison familiale est nichée dans un creux, un peu à l'écart des autres. À cette époque de l'année, plus de la moitié des maisons sont fermées, jusqu'à l'été prochain. Comme cet horizon n'est plus le mien, j'évite d'y penser. Après quelques mètres, je m'arrête au-dessus d'une bouche d'égout destinée à recueillir le trop-plein de puits qui ruissellent des dunes alentour. Là, je tiens un instant le trousseau de clés entre mon pouce et mon index. J'écarte mes doigts. Je le regarde tomber. Voudrais que la scène se déroule au ralenti. Un étrange cliquetis plus tard, il disparaît dans un épais tapis d'aiguilles de pin. J'imagine l'eau qui l'emmènera dans les profondeurs à la prochaine averse, comme si une bonne pluie pouvait tout laver, faire disparaître toute trace. Ce serait tellement facile. Je souris, du moins j'en ai l'impression. Les yeux fixés sur mes pieds, je me remets en marche. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, et je ne sais pas encore si ma vie s'arrête ou bien si tout commence. Peut-être les deux à la fois. Voilà pour ce roman que je propose vraiment à tous les ados qui ont envie de se poser des questions, qui savent que leur famille n'est pas parfaite. Voilà, chaque famille a ses problèmes et du coup là on plonge vraiment dans cette quête d'identité.
Voilà, notre émission spéciale jeunesse avec le prix des dévoreurs de livres se termine. Alors certes, les livres que nous venons de vous présenter sont à destination des jeunes, mais j'encourage également les adultes à les lire. Je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, d'ailleurs certaines l'ont déjà dit, les livres jeunesse ne sont pas que pour les jeunes. Alors tous à vos cartes de bibliothèque pour emprunter la géniale sélection des dévoreurs de livres. Et avant de rencontrer les auteurs proposés par les dévoreurs, il me semble que la bibliothèque de Ménil-sur-Iton propose un rendez-vous déjà ?
Oui, alors ça n'a rien à voir effectivement, comme tu le dis, Pauline, avec les dévoreurs de livres, mais pour cette fin d'année, nous accueillerons Josiane Le Dinf, qui sort là en fin d'année son deuxième roman policier pour adultes, puisqu'elle a déjà écrit quatre petits romans jeunesse et un roman policier l'année dernière, donc Un cœur à tout prix. Celui-ci, c'est ce qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Voilà. Donc elle viendra dédicacer son livre samedi 22 décembre à partir de 10h à la bibliothèque de Danville.
D'accord. Super. Et pour notre part, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro de Délivrez-vous. Au revoir.
Bonne fête à tous.
Bonne fête de fin d'année. Take you up in boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweet.